France Musique. C'est l'été sur France Musique. Le fabuleux destin de Pauline Viardot, Charlotte Landru-Chandès.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette série de 8 épisodes consacrés à l'histoire extraordinaire de la cantatrice et compositrice Pauline Viardot, née il y a tout juste 200 ans. Une femme moderne, célèbre figure parisienne, incarnation du romantisme, muse et amie des compositeurs, artistes et écrivains. En guest star dans le rôle de Pauline Viardot, vous entendrez la voix de la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac. Et au programme de ce premier épisode, une attaque de brigand, un coup de foudre pour Franz Liszt et une chute de cheval mortelle. Pauline Garcia naît le 18 juillet 1821 à Paris. Elle est la petite dernière d'une famille de 3 enfants, après Manuel, né en 1805, et Maria Felicia, la future Malibran, née en 1808. Leurs parents sont tous deux d'origine espagnole. Leur mère, Joaquina, est comédienne et chanteuse. Et leur père n'est autre que le ténor sévillan Manuel Garcia, célèbre partout en Europe, aussi bien en France qu'en Italie, en Angleterre ou en Espagne. Garcia est connu pour son caractère sanguin et impulsif. C'est un homme volontaire, déterminé, travailleur. Ami de Rossini, il a créé plusieurs rôles dans ses opéras, par exemple dans Le Barbier de Séville, où il incarne le tout premier Conte Alma Viva de l'histoire de la musique. C'est à Manuel Garcia qu'on doit la sérénade d'Alma Viva au premier acte du Barbier de Séville. Un peu en panne d'inspiration, Rossini en personne lui aurait dit « Vraiment, Garcia, je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais écrire pour toi dans le premier acte. Compose donc quelque chose toi-même, ce sera certainement très bien. » C'est un sacrément fier andalou, Manuel Garcia. Il n'est pas seulement chanteur, il est aussi un peu metteur en scène et surtout compositeur. On lui doit environ une quarantaine d'opérettes et d'opéras, souvent inspirés de la musique de Rossini et des tendances du XVIIIe siècle. S'y ajoutent rythme et mélodie espagnole, et c'est là ce qui va faire son succès. Thank you. Manuel Garcia est passionné par l'art lyrique. C'est sa vie. Il ne laissera donc pas le choix à sa femme, ni à ses enfants. Toute la famille va devoir se mettre au chant. Et c'est grâce à son enseignement exigeant que ses deux filles deviendront plus tard des cantatrices internationalement reconnues. Mais à quel prix ? Ses efforts se concentrent d'abord sur Maria, dont il faut dompter la voix a priori ingrate et imparfaite. Pour satisfaire son père, la jeune fille doit adopter un mode de vie très strict. Et quand Garcia n'obtient pas les résultats escomptés, il ne fait pas dans la dentelle. Maria aurait un jour raconté à une amie. Lorsque j'étais enfant, je pleurais souvent en prenant ma leçon. Et comme j'avais une peur excessive que papa ne s'en aperçût, je me plaçais derrière lui et je pris l'habitude insensible de maîtriser le son de ma voix tandis que mes larmes coulaient. Aussi impétueuse que son père, Maria lui résiste souvent. Et alors, c'est la crise. À l'inverse, Pauline, de 13 ans sa cadette, sera d'un tempérament docile. Elle aimera profondément ce père exigeant et un peu fantasque. C'est de lui qu'elle héritera son goût du travail et aussi son goût du voyage. Les aventures familiales commencent en 1825. Les Garcia embarquent à Liverpool, direction New York. Il est temps de faire découvrir l'opéra italien au Nouveau Monde. Thank you. des premières représentations du Barbier de Séville, au Parc Theater de New York, tous les Garcia sont sur scène, comme s'en souvient Pauline.
Papa incarnait le comte Almaviva. Ma sœur, Maria, était Rosine. Et mon frère Manuel jouait Figaro. Maman participait aussi à l'opéra, dans le rôle de Bertha. Je n'avais alors que 4 ans et j'étais très impressionnée par ce que je voyais. À l'époque, le monde de l'opéra m'émerveillait et m'effrayait tout à la fois. Certains personnages m'épouvantaient. Oh, quel horrible souvenir je garde du diable Samuel dans le Freischütz de Weber. La scène de la gorge au loup me faisait hurler de terreur, à tel point qu'un soir, maman avait dû rentrer me coucher. Dans le Barbier de Séville, c'était Basile qui me repoussait. Il était horrible, sombre, le teint laiteux. Je n'avais pu m'empêcher de pousser un cri quand j'avais rencontré son interprète dans les coulisses. Et un peu plus tard, même expérience dramatique avec le fantomatique commandeur du Don Giovanni de Mozart.
À l'époque des débuts à New York, un vieux monsieur de la plus haute importance se rend régulièrement chez les Garcia, prenant parfois la petite Pauline sur ses genoux. Cet homme, c'est Lorenzo da Ponte, l'ancien librettiste de Mozart, installé à New York depuis des années. En 1826, un grand événement se prépare dans la ville empire. Don Giovanni est sur le point d'être donné pour la première fois aux États-Unis, d'où les visites régulières de da Ponte à Manuel Garcia. Tous deux sont aux manettes de la création américaine. C'est assez vertigineux de penser qu'au cours de sa vie, Pauline aura, à la fois, attendri le librettiste de Mozart, lancé la carrière de Charles Gounod et vécu en même temps que Puccini et Stravinsky. Pendant 9 mois, les Garcia font découvrir le répertoire italien au tout New York et récoltent succès sur succès, surtout Maria Felicia. Le redoutable enseignement qu'elle a subi porte ses fruits. Son père a transformé sa voix pleine de défauts en un véritable bijou. À New York, Maria assoit sa réputation, éclatante dans les opéras de Rossini. Un célèbre portrait de Henri de Ken l'a immortalisée dans le rôle de Desdémone. Maria est représentée une harpe à la main, dans une attitude rêveuse et poétique, la tête délicatement appuyée sur la main, son abondante chevelure noire lui tombant sur les épaules. Pour l'anecdote, Manuel Garcia aurait donné 6 jours à sa fille pour apprendre le rôle de Desdémone à la perfection. Toujours extrême, il aurait menacé de la frapper si elle ne se montrait pas à la hauteur de ses attentes. Le soir de la représentation, au 3e acte, scène où Othello poignarde Desdémone, Maria s'effraie. Elle voit son père entrer en scène, non pas avec le couteau factice qui était prévu, mais avec une véritable lame. Garcia est défiguré par la colère. Ses yeux fulminent. Maria s'écrie alors « Papa, papa, pour l'amour de Dieu, ne me tuez pas !» La pauvre enfant voit sa dernière heure arriver et, terrifiée, elle se jette sur la main menaçante et la mord. Le public, qui ne devine rien du tout, est quant à lui comblé face à tant de réalisme. L'autre rôle qui va faire la gloire de la future Malibran, c'est Rosine, bien sûr.
Le 26 mars 1826, Maria épouse le banquier Eugène Malibran. Il a 45 ans, elle n'en a alors que 18. Pour elle, ce mariage est peut-être un moyen d'échapper à la tyrannie paternelle. Malibran ne plaît vraisemblablement pas à Manuel Garcia, et ce mariage va engendrer bien des crises. Car en donnant sa fille, le ténor sévillan ne perd pas seulement son enfant, mais aussi une remarquable prima donna. D'ailleurs, le mariage de Maria avec Eugène Malibran est sans doute l'une des raisons qui précipite le départ des Garcia pour le Mexique.
À Mexico, les Garcia vont aussi connaître le succès, même si les conditions de travail sont loin d'être aussi idéales qu'à New York. Ici, tout est à faire. Au Théâtre de Mexico, pas d'orchestre, ni de chœur, ni de partition. Mais bon, pas de quoi décourager Manuel Garcia, toujours débordant d'énergie. De mémoire, il réécrit lui-même les partitions du Barbier de Séville, d'Othello et de Don Giovanni. Pendant ce temps, Pauline découvre le piano aux côtés de l'organiste de la cathédrale de Mexico. Mois plus tard, l'heure du grand retour a sonné pour la famille Garcia. Mais celui-ci ne va pas être des plus sereins. Entre Mexico et Veracruz, leur groupe de voyageurs est pris en embuscade par des voleurs. Les hommes sont contraints de se coucher à plat ventre, tandis que femmes et enfants sont mis à l'écart. Terrifiés, les voyageurs assistent au pillage de leurs biens. Joaquina fait de son mieux pour rassurer sa fille. Pauline se souvient.
Nous fûmes dépouillés de tout, presque des vêtements. Nous étions en tout une trentaine de personnes, dont au moins 20 étaient des femmes et des enfants. Les brigands étaient au nombre de 60, à cheval, masqués et armés jusqu'aux dents. On entendait de temps à autre un coup de fusil, précédé, accompagné et suivi de cris et de jurons effroyables, les coups de marteau qui cassaient les coffres, les gémissements des femmes, les piétinements des chevaux et, comme pédale à toute cette discordance, le hurlement du vent qui soufflait dans cette gorge entourée de montagnes. Cette scène a duré 2 mortelles heures. Eh bien, je ne me rappelle pas avoir entendu des éclats de rire plus francs et plus communicatifs que ceux de mon père pendant la nuit qui a suivi la perte de toute sa fortune. Bien plus, il est parvenu à mettre en humeur joviale une douzaine de voyageurs qui faisaient partie de notre caravane et qui, comme mon père, avaient été volés et ruinés. Personne n'avait été blessé et l'on ne se sentait plus en danger de rien perdre.
C'est au retour du Mexique, à Paris, que l'éducation musicale de Pauline va véritablement commencer. Chose surprenante, Manuel Garcia décide que, contrairement à ses aînés, sa Benjamine ne sera pas chanteuse, mais pianiste. On peut se demander pourquoi Garcia a mis sa fille au piano, alors que depuis le début, il ne jure que par le chant. Serait-ce pour éviter une rivale à la Malibran? Ou peut-être pour des raisons physiques? Car Pauline est loin d'avoir la beauté de sa sœur. Il n'empêche que le redoutable Andalou adore Pauline. Elle est sa petite chouchoute. Contrairement à ses aînés, elle est douce, posée. Elle a un caractère facile et leurs relations sont des plus apaisées. Quand on pense aux méthodes violentes que Garcia employait avec Maria, c'est à se demander si on parle bien du même homme. À présent, Manuel Garcia ne chante plus beaucoup et se consacre à l'enseignement. Pauline a maintenant 10 ans. Elle participe aux cours de son père en accompagnant au piano ses élèves chanteurs. Et c'est sans doute elle qui profite le plus de ses leçons. Elle retient les conseils techniques, comment projeter la voix, comment respirer. En parallèle de ses séances, elle étudie auprès de maîtres réputés. Meisenberg pour le piano, Reicha pour le contrepoint et la composition. Et comme son frère et sa sœur, elle est très douée. La complicité entre Pauline et son père n'aura pas le temps de s'épanouir. Manuel Garcia meurt soudainement le 2 juin 1832, emporté par une congestion pulmonaire. Pauline a à peine 11 ans. De son côté, Maria est elle aussi de retour en Europe, mais seule. Son mariage avec Eugène n'a pas résisté. Cela n'empêchera pas la diva de garder son nom. Aux yeux du monde, elle restera la Malibran. Depuis sa séparation avec sa famille, Maria triomphe en véritable star. À Londres, à Paris, à Bruxelles, en Italie, on s'arrache ses talents. Elle est la muse des écrivains. La coqueluche des salons mondains. Musset, Lamartine, Sand, tout le monde loue ses prouesses vocales et son charme. « En 1830, à Paris, vite remise de sa séparation avec Eugène Malibran, Maria fait la connaissance d'un jeune violoniste belge du nom de Charles de Berriot, dont elle tombe amoureuse. Le couple part vivre à Ixelles, une commune proche de Bruxelles. Pour Maria, Charles fait construire une splendide villa entourée d'un parc immense. Depuis la mort de son père, Maria a renoué avec sa mère et sa sœur Pauline. Elles sont invitées à venir la voir quand elles le souhaitent à Ixelles. Pendant ce temps, à Paris, Pauline se consacre corps et âme au piano, déterminée à devenir une grande interprète. Elle est soutenue et encouragée par sa mère. En plus, elle a la chance de suivre les cours d'un brillant professeur en tout début de carrière, un très beau garçon de 25 ans dont Pauline va évidemment tomber amoureuse.
Le samedi était un jour sacré. Celui de mon cours d'accompagnement chez Franz Liszt. Un mélange de hâte et d'appréhension m'envahissait. J'éprouvais une telle émotion au moment de me préparer, je ne parvenais plus à lasser mes bottines. Mes mains tremblaient, c'était plus fort que moi. J'imaginais le moment où je sonnerais à sa porte, où il m'ouvrirait. Il était si beau, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus. Il devait être habitué à voir les femmes fondre en larmes devant lui. Quelques années plus tard, alors que je faisais mes débuts de cantatrice, je l'ai recroisé à Padoue, au café Pedrocchi. À cette époque, il vivait avec Marie Dagou, mais il était sans cesse par Mons et par Vaux, et il la laissait souvent seule avec leurs deux filles. Liszt m'émerveillait encore, bien sûr, toujours aussi amusant et spirituel, mais je compris en le revoyant qu'il n'était pour moi qu'un idéal et que dans la réalité, vivre à ses côtés devait être bien compliqué.
Thank you.
Le 14 août 1836, à Liège, on célèbre les courses hippiques. C'est l'été, l'enthousiasme est au rendez-vous. La foule est en liesse. Et pour clôturer la journée en beauté, on se presse à un récital organisé chez le violoniste Charles de Berrion. À l'affiche, la Malibran, évidemment. Quelques mois plus tôt, Charles et Maria se sont enfin mariés, après un divorce compliqué avec Eugène Malibran. Ce soir-là, on découvre aussi une jeune pianiste de 15 ans, méconnue du public. Discrète, effacée par sa sœur, on la remarque à peine. Vous vous en doutez, il s'agit de Pauline, qui fait là ses débuts. Meyerbeer, présent parmi les spectateurs, est alors loin d'imaginer que 13 années plus tard, c'est elle qui créera l'un de ses chefs-d'œuvre, son opéra Le Prophète. En attendant, à ce concert d'août 1836, à Liège, c'est Maria qui fait sensation. Mais ce que tout le monde ignore, c'est qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre.
Depuis quelque temps, la santé de Maria s'est dégradée. Elle a des malaises, des maux de tête. Elle est nerveuse et son caractère est instable. Mais elle continue à travailler, entièrement dévouée à son art, comme toujours. Elle ne se consacre d'ailleurs pas uniquement au chant, mais aussi à la composition de mélodies. Maria aime écrire. Cela la repose au milieu de cette vie effervescente. Maria continue aussi à recevoir et à faire bonne figure, malgré ses malaises. La réunion de ses amis autour d'elle, le doux repos dont elle jouissait, le bonheur qu'elle éprouvait de se voir enfin Maria Berriot, tout l'a disposée à ce joyeux abandon si naturel en elle, comme le rapporte la comtesse Merlin, sa protectrice. Mais un jour, ne parvenant peut-être plus à supporter seule son terrible secret, Maria se confie à sa sœur Pauline.
Maria avait fait une grave chute à cheval. C'était au début de l'été, lors d'une série de concerts à Londres. Elle était enceinte, les représentations et les fêtes l'épuisaient. Mais pas question de renoncer à l'équitation, une vraie passion pour elle. Un jour, malgré la fatigue, ma sœur était donc partie en promenade avec des amis au Regent's Park, contre l'avis de Charles. Elle n'en avait fait qu'à sa tête, comme d'habitude. Elle était ainsi, Maria, fougueuse, impétueuse. Pour elle, il fallait vivre intensément. C'était une très bonne cavalière et elle voulait toujours monter la bête la plus farouche. Ce jour-là, on lui avait confié un pur sang plutôt calme, trop calme à son goût sans doute. En fière cavalière, Maria l'avait cravachée avec vigueur et en avait complètement perdu le contrôle. Quand elle m'avait raconté tout cela, ma sœur souffrait atrocement. Mais elle tenait à sauver les apparences et m'avait fait jurer de ne rien dire. Elle se savait condamnée. Elle avait toujours eu le pressentiment qu'elle mourrait jeune. Ma chère Maria, vivrait-elle encore si je n'avais pas eu la bêtise de cacher son état de santé à Charles et à ma mère?
Jusqu'au bout, la Malibran ne laissera rien paraître, assurant tous ses contrats avec sa fougue habituelle. À peine 10 jours avant sa mort, elle interprète encore le duo de bravoure d'Andronico de Mercadante. Le public n'y voit que du feu.
Oh!
Maria Malibran s'éteint le 23 septembre 1836, à l'âge de 28 ans, dans sa chambre d'hôtel à Manchester. Pauline apprend la mort de sa sœur depuis la Belgique. Du jour au lendemain, Pauline et sa mère se retrouvent livrées à elles-mêmes. Sans Manuel, sans Maria, les piliers de la famille, le clan Garcia n'est plus. Et l'autre Manuel, le frère, est parti vivre sa vie de son côté. L'âge d'or des années américaines semble tout à coup bien loin. Heureusement, Pauline et sa mère peuvent compter sur le soutien de la famille de Charles de Berriot. Et, loin de se laisser abattre, Joaquina décide de prendre en charge l'éducation musicale de Pauline. Le jour de ses 16 ans, elle demande à sa fille de chanter un air de Rossini pour voir comment elle se débrouille. Tout de suite, c'est l'évidence. D'un ton catégorique, Joaquina aurait déclaré « Très bien, je suis fixée maintenant. Ferme ton piano. Tu chanteras désormais. » Pour Pauline, le message est difficile à accepter. Depuis qu'elle a posé ses doigts sur un clavier à Mexico, elle adore le piano et se pense vouée à une grande carrière. Mais sa voix allume une lueur d'espoir chez sa mère et Charles de Berriot. Pauline n'a jamais pris un cours de chant, et pourtant, tous les ingrédients sont là. Si elle travaille sa voix, elle pourrait devenir une grande cantatrice. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, une femme a plus de chances de réussir comme chanteuse que comme pianiste. Le destin de Pauline est déjà tout tracé. Elle prendra la relève de sa sœur. Fin du premier épisode du Fabuleux Destin de Pauline Viardot, une série de 8 épisodes proposée par Charlotte Landru-Chandès avec la voix de Stéphanie Doustrac dans le rôle de Pauline Viardot. Prise de son, Claude Nior, Fabien Capel, Éric Boisset, mixage Benjamin Vignal, réalisation Lionel Quentin, attaché de production Nelly Portal. D'après les biographies de Patrick Barbier, Michel Friand, Gustave Dulon et Alexandre Zwigilski. Podcast et réécoute sur notre site francemusique.fr. Dans le prochain épisode du Fabuleux Destin de Pauline Viardot, les débuts de Pauline comme cantatrice, sa voix incroyable, son sens inné de la tragédie, ses premiers succès en Belgique, en Allemagne, où elle va devenir amie avec la future Clara Schumann et bien sûr en France.
À réécouter sur francemusique.fr.